Bonjour, bienvenue à Arrêt sur le monde. Ici Frédéric Méran, professeur de sciences politiques et directeur du CERIUM à l'Université de Montréal et aussi votre animateur. Aujourd'hui à l'émission, faut-il reconnaître le gouvernement taliban en Afghanistan? 20 ans après avoir été chassés du pouvoir par une coalition internationale menée par les Américains, les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Depuis, le gouvernement du monde entier font face à un dilemme. Faut-il reconnaître ou non le gouvernement des talibans? Faut-il accepter cette nouvelle réalité, celle de l'émirat islamique d'Afghanistan, afin d'améliorer le sort de la population afghane? Alors pour discuter de cette question, je reçois Pierre Grosser, qui est professeur d'histoire à Sciences Po Paris et l'auteur du très bien nommé Traité avec le diable, paru aux éditions Odile Jacob, une de ses nombreuses publications, mais qui va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre cette question de la reconnaissance des gouvernements ennemis, peut-être, ou considérés comme non légitimes. Bonjour Pierre Grosser.
Bonjour.
Alors peut-être que pour le bénéfice de nos auditeurs et de nos auditrices, on pourrait commencer par faire la distinction entre la reconnaissance d'un gouvernement et la reconnaissance d'un pays en droit international. Pouvez-vous nous éclairer?
Alors, la question de la reconnaissance des États, on entend parler pour un certain nombre de cas très, très connus, hein, comme par exemple pour Taïwan. On entend parler, par exemple, pour le Kosovo, où là, la discussion porte sur la légitimité de l'existence d'un État. Et donc, évidemment, on sait très bien que certains États ne veulent pas que ces États que je viens de mentionner, qui sont reconnus par quelques-uns des États, soient reconnus par l'ensemble de la communauté internationale. En revanche, pour ce qui est des gouvernements, c'est une vieille question aussi, c'est-à-dire est-ce que le gouvernement est légitime? Est-ce que le gouvernement aussi maîtrise l'ensemble de son territoire? C'est parfois une question qui est posée. Et en fait, c'est une question qui est revenue très souvent, essentiellement pour des gouvernements issus de révolutions. C'est-à-dire que le cas s'est posé, par exemple, après la révolution bolchevique. On sait, par exemple, que les États-Unis n'ont reconnu l'Union soviétique qu'à l'arrivée de Roosevelt au pouvoir. C'est la question, évidemment, après la révolution chinoise aussi. Il a fallu attendre les années 70, puisque la normalisation entre les États-Unis et la Chine, c'est 1978 seulement, alors que les communistes sont arrivés au pouvoir en 1949. Donc là, la question n'est pas de savoir si l'Afghanistan a le droit d'exister, la question est de savoir si on reconnaît le gouvernement qui aujourd'hui est au pouvoir à Kaboul.
Alors, dans le cas de l'Afghanistan, après la chute de Kaboul, le gouvernement de Justin Trudeau au Canada a laissé entendre qu'il ne reconnaîtrait pas dans un premier temps le gouvernement taliban. Et des gens se sont alors posé la question de savoir pourquoi, si le Canada ne reconnaissait pas le gouvernement taliban, il reconnaissait d'autres gouvernements qui ne sont pas plus démocratiques, qui sont tout aussi autoritaires. Et on a mentionné par exemple l'Arabie saoudite à cette occasion. Alors, pourquoi est-ce que l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement taliban est différente d'une autre forme de prise de pouvoir par la voie non démocratique dans d'autres pays autoritaires ou soumis à des bouleversements politiques?
Alors, le premier point, c'est qu'on est toujours en relation internationale dans le fameux « what about ?». C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, on le compare avec ce qui se passe ailleurs. Et donc, évidemment, on a toujours l'impression que soit, par exemple, pour l'usage de la force, pourquoi on use de la force à tel endroit et pas à tel autre? Pourquoi on reconnaît un État et on ne reconnaît pas un autre? Pourquoi on reconnaît un gouvernement et pas un autre? Donc, il faut, je crois, se concentrer essentiellement sur le cas de l'Afghanistan, surtout que la question de la reconnaissance des talibans n'est pas nouvelle. C'est-à-dire quand ils ont déjà été au pouvoir dans les années 1990, ils sont arrivés au pouvoir entre, mettons, 1994 et 1996. Ça a été un processus d'ailleurs plutôt guerrier, mais pas seulement guerrier. Et à la fin des années 90, donc avant le 11 septembre pour aller vite, il y avait que trois États qui reconnaissaient le gouvernement des talibans. C'était le Pakistan, c'était l'Arabie saoudite et c'était les Émirats arabes unis. Donc, c'est pas, y a rien qui est tout à fait nouveau, parce que aussi c'est une force politique qu'on connaît très très mal, qu'on comprend pas très bien, Je ne sais pas si on peut la comprendre, hein. D'ailleurs, c'est une question qui est importante. Et donc, on a l'impression que de discuter avec eux, c'est une forme de compromission, étant donné le comportement aussi qu'ils ont sur le terrain et que l'on avait vu justement à la fin des années 90. Il y avait eu des discussions quand même, hein, et les Américains s'étaient posé la question d'une possible reconnaissance aux alentours de 97-98, et notamment à cause de la question du droit des femmes et de leur lien avec Al-Qaïda. Il avait été décidé de ne pas reconnaître le gouvernement taliban en Afghanistan.
Vous l'avez dit, les talibans sont une force qu'on connaît mal. On peut dire que c'est une force révolutionnaire, en tout cas qui a pris le pouvoir par les armes. Et la question se pose de savoir pourquoi souhaitent-ils être reconnus par cette communauté internationale. On a vu qu'aux Nations Unies, ils ont demandé le droit de parler au nom de l'Afghanistan à l'Assemblée générale des Nations Unies. Quel est l'intérêt pour un gouvernement comme celui des talibans d'obtenir cette reconnaissance de légitimité internationale?
Alors la première remarque déjà sur la question des Nations Unies, c'est que c'est aussi une des parties de la question de la reconnaissance, c'est-à-dire qui est-ce qui représente un pays aux Nations Unies. Et c'était une question que l'on c'est une question que l'on retrouve à chaque fois qu'il y a un gros changement de gouvernement, notamment une révolution. Ça avait été le cas par exemple avec la prise quand il y avait eu la prise de pouvoir par les Khmers rouges, hein, il y avait eu donc un ambassadeur Khmer rouge. Et après quand il y avait eu l'invasion par le Vietnam. Eh bien, les Occidentaux et un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, et surtout la Chine, s'étaient débrouillés pour que finalement, ce soit un ambassadeur Khmer Rouge, enfin, l'ambassadeur Khmer Rouge qui reste en place, qui évidemment pouvait être moralement tout à fait problématique. Alors, pourquoi est-ce qu'ils demandent ça? C'est en grande partie par intérêt. Et d'ailleurs, ceux qui soutiennent, les pays qui soutiennent, par exemple le Pakistan, qui soutient la reconnaissance du gouvernement taliban, ils voient leur intérêt. C'est-à-dire que pour le moment, il y a de l'argent, pas mal d'argent, environ 10 milliards de dollars qui sont gelés aux États-Unis. Ce qui était déjà un problème, par exemple, avec au moment où le Shah d'Iran s'était fait renverser, il y avait de l'argent qui était immobilisé, notamment aux États-Unis. Vous avez la question, évidemment, de l'aide internationale. Or, la situation économique et humanitaire est extrêmement compliquée. Et puis, bien entendu, vous avez quelques personnes, et notamment le ministère des Affaires étrangères, qui pour le moment est sur des listes de sanctions des Nations Unies, donc qui complique quand même très largement toute diplomatie que le gouvernement taliban voudrait mettre en place.
Alors, du côté des Occidentaux, le Canada, les Européens, mais évidemment surtout les États-Unis, on a l'impression que ces gouvernements font face à un dilemme. D'un côté, ils ne sont pas trop enthousiastes à l'idée de reconnaître le gouvernement taliban qui vient de les bouter hors de l'Afghanistan et de les humilier dans le cas des Américains, mais de l'autre, semblent vouloir utiliser une possible reconnaissance du gouvernement taliban comme un levier pour amener ce gouvernement à se comporter d'une manière, disons, à peu près conforme aux normes internationales, ou du moins à ne pas revenir vers les pires excès des années 90 avec ces scènes de brutalité qu'on observait, mais aussi le fait que le gouvernement avait accueilli un groupe terroriste, Al-Qaïda, à l'époque. Alors comment est-ce que les gouvernements doivent finalement jongler avec ces deux contraintes?
En fait, ce sont les dilemmes traditionnels de savoir s'il faut mieux utiliser la carotte ou le bâton pour transformer, faire évoluer un gouvernement avec souvent l'impression que ces deux stratégies fonctionnent, alors que souvent ce sont des dynamiques internes. C'est des choses qu'on avait revues, par exemple, par rapport à la Chine ou à Cuba. Hein. Est-ce que finalement un gouvernement se radicalise parce qu'il est isolé internationalement, parce qu'il a des sanctions, ou est-ce qu'il se radicalise parce qu'il y a des dynamiques internes qui font que le gouvernement se radicalise. Ça a été la même question pour la Révolution française, pour ceux qui sont plus vieux et qui l'ont vécu. Donc, c'est vraiment une question stratégique qui est très importante. Je pense que c'est très difficile en termes d'affichage et d'identité après avoir combattu un ennemi aussi longtemps et l'avoir dépeint de manière aussi négative, non pas de se jeter dans ses bras, mais en tout cas de lui serrer la main. Hein, la question de serrer la main étant évidemment très très symbolique. Hein, je crois que, et vous le savez, il y a des débats aussi aujourd'hui sur ce qu'on va faire avec la Syrie, avec des pays arabes qui commencent à rediscuter, même à ouvrir une ambassade. Ben, nous, ça va être la question. Qui est-ce qui un jour va serrer la main de Bachar al-Assad? Donc avec les talibans, la question se pose aussi. Et je crois que le problème, c'est qu'on, évidemment, on surévalue un peu nos capacités, soit par la carotte, soit par le bâton de transformer un régime taliban qui, fort de sa victoire, et qui en plus, je pense, est dans des conflits internes assez nombreux, parce que voilà, il ne pensait pas arriver au pouvoir si vite et tout n'est pas organisé. Donc, je crois qu'on surévalue un peu notre capacité. De l'autre côté, on a peur aussi de se faire rouler. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que les talibans, voilà, ce qu'ils veulent, c'est effectivement cette reconnaissance et ce qui va avec, c'est-à-dire effectivement cette aide internationale, cette aide humanitaire. Et donc le risque, c'est que finalement, ils fassent quelques gestes, hein, ce fameux gouvernement un petit peu inclusif, on en est encore assez loin, de ne pas être trop dur sur la question de l'éducation des femmes. Pour le moment, on sépare, mais on n'est pas encore en train de tirer tout le monde des universités ou des écoles, etc., etc. Donc voilà, est-ce que ces concessions ne risquent-elles pas d'être finalement cosmétiques? Uniquement pour avoir cette reconnaissance, on va reconnaître les talibans et puis on va être ridicule parce que finalement ils vont revenir en arrière ou ils vont au contraire, je dis revenir en arrière, c'est plutôt aller de l'avant dans leur stratégie et leur manière de faire la politique à l'intérieur du pays.
Alors, vous avez mentionné, Pierre Grosser, que lors du premier gouvernement taliban, à la fin des années 90, il n'était reconnu, je crois que vous avez dit, par le Pakistan, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.
Ça.
On a l'impression aujourd'hui que sa reconnaissance est beaucoup élargie, puisque la Russie et la Chine reconnaissent le gouvernement en place à Kaboul. Le Pakistan a soutenu les talibans depuis très très longtemps. Comment expliquer ce soutien assez large dont semblent jouir les talibans à l'extérieur de la communauté occidentale?
Alors, je pense qu'attention, il y a eu encore une déclaration de Lavrov pour dire que finalement, il fallait attendre sur la question de la reconnaissance. Les Chinois, effectivement, ont commencé à discuter avec les talibans. En fait, ces deux pays ont discuté avec les talibans depuis les années au moins 2005-2006, les Américains aussi, hein, d'une certaine façon. Je crois qu'ils sont quand même relativement prudents. Le Pakistan essaie de forcer la main de la Chine. Par exemple, en disant, voilà, vous savez, il y a un grand projet RCEP, donc de faire une grande voie de communication, de trafic, d'influence entre la Chine et le Pakistan, qui évidemment poserait quelques problèmes à l'Inde. Et donc l'idée, c'est d'y intégrer l'Afghanistan. Et en fait, le Pakistan veut que la communauté internationale, la Chine, enfin tous les acteurs possibles, stabilisent le Pakistan pour pas avoir de conséquences d'une déstabilisation du Pakistan et tout d'un coup une radicalisation de la politique étrangère de l'Afghanistan qui veuille reconstituer, par exemple, un grand Pachtounistan qui est le cauchemar du Pakistan. À côté de ça, en fait, la nouveauté, c'est pas tellement ces deux grandes puissances qui toutes les deux s'inquiètent en fait de l'État islamique, de la présence de l'État islamique, qui pourrait avoir des conséquences sur leur propre politique interne, notamment évidemment au Xinjiang, et donc qui comptent d'une certaine façon sur les talibans pour combattre cet État islamique. L'autre nouveauté, me semble-t-il, à côté de ces grands pays, c'est que vous avez maintenant un certain nombre de rivalités internationales qui se jouent là. Alors, Inde-Pakistan, c'était traditionnel. Mais surtout, la rivalité entre le Qatar et les Émirats et l'Arabie saoudite, mais surtout avec les Émirats, c'est le Qatar qui a eu un rôle très important pour les négociations avec les talibans. Les Émirats le voulaient. Les Qataris arrivent avec la Turquie dans la poche, notamment on l'a vu pour l'aéroport de Kaboul. Les Émirats ont des très bons liens avec l'Occident, donc ça peut aussi jouer un rôle. Donc vous avez en fait un jeu diplomatique avec beaucoup plus d'acteurs que dans les années 90, où en fait le gros problème de l'Afghanistan dans les années 90, c'est qu'une fois que la guerre a été terminée, que l'Union soviétique sont partis, on a laissé faire une guerre civile, tout le monde a abandonné l'Afghanistan. Et donc, finalement, on a l'impression que c'était un pays, bon, s'il sombrait dans l'anarchie et le chaos, c'était pas très grave. Or, aujourd'hui, on a quand même quelques souvenirs, 20 ans après, du 11 septembre, donc on ne veut pas que ça ressombre de nouveau dans le chaos et que, évidemment, les liens se reforment, qui d'ailleurs continuent d'exister, entre Al-Qaïda et le gouvernement taliban.
Alors Pierre Grosser, vous êtes un historien, vous avez donné plusieurs exemples historiques, vous êtes remonté jusqu'à la Révolution française pour montrer que c'est un vieux problème, celui de la reconnaissance de gouvernements nouveaux, surtout lorsqu'ils sont issus des révolutions comme la Révolution française. Comment ça se termine généralement, ces histoires-là? Est-ce que c'est juste une question de temps avant que les Nations unies reconnaissent le gouvernement taliban en Afghanistan ou est-ce qu'il y a parfois d'autres scénarios?
Alors, il y a des oppositions qui sont extrêmement durables. On l'a vu entre les États-Unis et Cuba, par exemple, hein, où là, on a l'impression que c'est un vrai problème identitaire et qu'on personne ne sait comment un jour ça sera réglé, hein, puisqu'on avait l'impression qu'avec Obama, on avait trouvé une solution et que Trump a tout mis par terre une fois qu'il est arrivé au pouvoir. C'est vrai que quand on regarde l'histoire, avec l'Union soviétique, il y a eu effectivement cette reconnaissance. Alors que c'était un État totalement paria et qui s'est même retrouvé parmi les grandes puissances à Yalta. Bon, une image qui est extrêmement symbolique, de la même façon que le voyage de Nixon en Chine. C'est voilà la reconnaissance, hein, puisque justement en 1954, quand les États-Unis ne reconnaissaient pas la Chine, le représentant américain, le secrétaire d'État Dulles, avait refusé de serrer la main de Suwanhai. Et donc là, au contraire, on serre la main très très longuement pour montrer que tout ça est tourné. Mais voilà, il s'est passé, il y a, comme on dit, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, il y a des intérêts stratégiques qui ont pu changer. Là, je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui ont intérêt à ce que la région se soit relativement stable, à la Chine, la Russie. Il faudrait parler aussi de l'Ouzbékistan qui, pour le moment, tend plutôt la main au gouvernement taliban, alors que le Tadjikistan, qui se souvient de sa guerre civile du début des années 90, n'a pas du tout l'intention de reconnaître pour le moment le régime taliban et s'inquiète énormément. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont intérêt à une certaine stabilité. Je crois que ce qui est le plus remarquable, d'une certaine façon, c'est que les Occidentaux aujourd'hui, et notamment les Américains, parce que les Européens, notamment les Français qui étaient partis depuis un moment, n'ont pas tellement leur mot à dire dans cette affaire, les Américains voudraient garder un œil, et là il y a des discussions pour savoir s'ils peuvent se réinstaller un peu en Asie centrale pour garder un œil sur l'évolution de l'Afghanistan, mais on a l'impression qu'ils sont même très très marginalisés, que pour eux c'est pas là où se joue l'essentiel. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement il ne peut pas y avoir des formes d'équilibre des puissances, j'allais dire à l'ancienne, pour contenir tous les problèmes de l'Afghanistan, les Américains finalement ouvrant un petit peu les vannes de l'aide internationale, même si maintenant les Américains ne sont plus les seuls gardiens de l'aide internationale, pour uniquement voilà avoir une stabilisation. En comptant que oui, il y aura de temps en temps quelques cris d'orfraie des ONG qui diront regardez ce qui se passe en Afghanistan, c'est horrible, etc. Mais comme plus personne veut intervenir, on leur dira bah, écoutez, vous nous avez critiqué, vous avez dit que nos guerres sans fin c'était une abomination, et puis maintenant vous dites il faut sauver les femmes afghanes, ce qui est quand même un petit peu contradictoire. Donc voilà, moi je pense que ça va se jouer vraiment avec des puissances régionales, des grandes, et ce qu'on oublie souvent de plus en plus des moyennes et même des petites. Enfin, des petites qui sur le terrain sont petites quand on regarde la taille du Qatar ou des Émirats Arabes Unis, mais qui sont maintenant des grandes puissances d'influence. Le risque, évidemment, ce qui inquiète tout le monde, c'est qu'on ait des situations plutôt à la libyenne, où finalement tout le monde, ayant tellement l'intention de faire avancer ses pions, on rentre dans une mêlée qui n'en finit pas.
J'ai mentionné, Pierre Grossin, en introduction, votre livre, Traité avec le diable. On vous avait reçu au Cérium, d'ailleurs, pour en parler. Mais ce livre, vous l'avez publié en 2013, et ça pouvait sembler audacieux, puisque le sous-titre du livre, c'est Les vrais enjeux de la diplomatie au 21e siècle. Alors, en tant qu'historien des relations internationales, peut-être en guise de conclusion, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez posé ce diagnostic et pourquoi reste-t-il finalement pertinent aujourd'hui. En quoi est-ce que le 21e siècle se caractérise par ce dilemme ou ce défi de traiter avec le diable, c'est-à-dire avec les ennemis en relations internationales, finalement?
Alors d'abord, c'est effectivement une vieille question, puisqu'elle est très largement liée à ce qui s'est passé dans les années 30, bien entendu, hein, puisque c'est quand même un des moments absolument fondateurs où on a commencé à voir ce qu'était le pire du pire, hein, notamment avec la Nazie. En fait, quand j'ai écrit ce livre, c'était en partie en réaction avec cette idée qu'il y avait des très gentils et des très méchants dans le monde, et qu'il y avait des solutions one click, et qu'on était très impatients que les gouvernements occidentaux notamment gèrent ces méchants et les fassent disparaître ou fassent pression. Je disais que ben, voilà, d'abord c'est compliqué et que c'est difficile de savoir qui est méchant, pourquoi il est méchant, comment il est méchant, etc. Et toutes les stratégies possibles et imaginables pour discuter avec lui, qui sont souvent des stratégies complexes, mais qu'en tout cas de ne pas discuter avec lui est souvent, si vous voulez, plus un problème qu'une solution. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que je pense qu'il s'est passé au milieu des années 2010 quand même un tournant assez important, puisqu'on a vu l'apparition de même dans des pays qu'on pensait plutôt amis, hein, on pense avec la Turquie par exemple, d'hommes forts qui nous posaient un certain nombre de problèmes. On a vu les États du Golfe avoir beaucoup plus d'importance qu'ils n'en avaient auparavant. On a vu surtout évidemment le retour de la Russie sur la scène internationale de façon très nette à partir de 2014. Xi Jinping, qui évidemment était une figure, même si des choses avaient commencé auparavant, etc. Et donc on s'est demandé s'il ne fallait pas retourner finalement à la diplomatie du 19e siècle. Et en fait, c'est un de nos enjeux. Et beaucoup de gens l'annoncent hein, que maintenant, hein, qu'on revient d'une certaine façon à une diplomatie où certes, vous avez toujours une partie de l'opinion publique qui a tendance à ne pas vouloir faire de compromis parce que effectivement on veut des solutions morales, à attendre des solutions one click quand on voit des méchants qui sont brutaux avec leur population, ou espérer qu'il y a des belles révolutions qui vont faire tomber tous les méchants. Mais on a l'impression plutôt que tout le monde fait plutôt profil bas. Alors on l'avait vu, la caricature a été Trump hein, finalement qui a discuté avec tout le monde et notamment avec Kim Jong-un, ça avait été quand même, c'était pas rien comme image hein, c'était quand même considéré comme pratiquement le pire des dictateurs. Et donc je pense qu'on est plutôt en train de rentrer là-dedans. Alors on a beau dire communauté démocratie, solidarité démocratie, etc. Dans l'ensemble, je pense qu'on est en train d'aller. Je sais pas si c'est un bien ou un mal. Hein. Je pense que les solutions précédentes n'étaient pas très bonnes. Mais est-ce que de trop passer la main dans le dos en espérant, pour des raisons un peu d'équilibre général, négocier avec tout le monde, oublier qu'en Inde, voilà, c'est pas parfaitement une démocratie, etc. Est-ce que finalement, ça va nous mener très très loin? C'est pas certain que les. On est allé très loin dans la diplomatie prétendument éthique. Je suis pas sûr que si on va trop loin dans la diplomatie non éthique, on s'en sort tellement mieux, ce qui évidemment fait que l'historien que je suis peut dire qu'on n'a pas fini de se poser des questions et d'analyser le monde tel qu'on aimerait qu'il soit par rapport au monde tel qu'il est.
Merci Pierre Grosser, c'est toujours une éducation de vous entendre. C'est ce qui conclut malheureusement notre émission sur l'Afghanistan et la reconnaissance du gouvernement taliban. Donc je remercie également le LAM de la Faculté des Arts et des Sciences, notre recherchiste Emma, Savoir Média, l'Agence France Presse, le Cerium, qui nous permettent de faire quelques instants un arrêt sur le monde. À très bientôt, au revoir.
Merci à vous.